Intérêts en une seule étape. Identité Québec, à un clic de votre liberté.
Boulevard, le Pit Stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Si les prédictions d'Environnement Canada sont bonnes, c'est entre 15 et 20 cm qu'on aura pour aujourd'hui. Pour l'instant, sur Québec, c'est une belle petite neige tranquille. On me dit que sur la route, c'est extrêmement glissant. Les déneigeurs sont là à s'affairer pour tasser la neige de là puis mettre du sel. Soyez patients, mais il y a eu quelques sorties de route.
Oui, il y avait un accident dans la balance de Saint-Augustin. Là, trois voitures, une van qui ont pris clos vraiment dans le fossé là, sur la 40 Est. On en a sorti une voiture puis on est rendu à finir le reste, mais ça a créé un immense ralentissement. C'est une patinoire finalement dans ce secteur-là. Évitez Monseigneur Bourget aussi. C'est un conseil d'auditeur qui disait que il y avait beaucoup de sorties de route direction Guillaume Couture et ça fait en sorte que ça ralentit aussi. Puis je vous rappelle, il y a une fermeture de pont ce soir entre Lévis et Québec. Le pont de Québec sera fermé direction sud et nord à partir de ce soir, 19h, là, jusqu'au 12, donc demain, 5h30.
Merci beaucoup. Denis Gravel, salut! Hey, je veux parler avec toi d'acharnement médiatique. C'est quoi de l'acharnement médiatique? Est-ce qu'actuellement, ce que Pablo Rodriguez peut avoir, c'est de l'acharnement médiatique à son égard envers le Parti libéral?
Du tout.
Aussi? Non, pas du tout.
Absolument.
Est-ce que Stéphane Lachance a été victime d'acharnement médiatique? Si je demande à des gens qui ont voté pour Stéphane Lachance, si je demande à Steph, il va me dire oui, peut-être un peu.
Bullshit.
C'est quoi de l'acharnement médiatique pour
ça,
toi?
De l'acharnement médiatique, c'est un terme que tu inventes quand tu trouves que les journalistes sont pas fins avec toi.
Je suis tellement d'accord
avec
toi.
C'est une défaite
toi.
De loser,
ah oui, non, mais je suis tellement médiatique. D'accord avec toi parce que tu sais, sois droit, puis il n'y en aura pas d'acharnement médiatique. Puis si on prend les deux situations, Pablo Rodriguez, c'est tout croche, là. C'est des brownies, c'est des millefeuilles, puis là, c'est genou un local à ma blonde.
Ben oui!
OK. Puis Stéphane Lachance, c'est la même chose, là. Il n'y a personne qui a dit à Stéphane... C'est pas un journaliste qui a dit à Stéphane Lachance, paye pas tes tickets, aie du retard dans tes paiements de taxes, puis vis à Lévis, là.
OK, je vais nuancer. L'acharnement médiatique, c'est des journalistes qui font leur job chez des gens qui t'aiment.
C'est très bon.
Ouais,
je vais faire une Pascal CV de moi-même. Je vais mettre quelques nuances. J'ai vu un peu d'acharnement médiatique au niveau de la campagne municipale. Une mère de famille monoparentale qui peinait à payer son loyer, qui avait réglé ses problèmes depuis. Mm-hmm. On avait quand même sorti la nouvelle. Une dame qui s'était désistée de la campagne électorale au niveau municipal parce qu'elle avait un problème de santé physique. Ça faisait une semaine et demie qu'elle n'était plus dans la campagne municipale et on a ressorti la nouvelle comme quoi la dame avait des dettes aussi. Moi, dans ce temps-là, je me dis « Tabarouette que ça devait être tranquille dans l'actualité pour sortir ce genre d'informations-là. » Puis on a, dans ce cas-ci, là, il y a une des deux dames qui n'en est pas encore remis de ça. On parle d'une dame d'autour de 60 ans, Mme Pincemain de mémoire, ouais. C'est ça?
Je sais que techniquement, des salles de nouvelles, ça n'existe plus. T'sais, moi, je vois encore du monde avec leurs cigarettes s'ostiner autour d'une table avec des cafés frettes. Je sais que ça n'existe plus. Donc, un paquet de journalistes en bobette, chacun dans le bureau, sont en Google Meet, puis ils essayent de déterminer si ça fait partie de l'information qu'on doit publier ou pas. Moi, je te dirais que probablement que tout le monde n'était pas nécessairement d'accord. Moi, le point que je vais t'amener, c'est toujours le point de est-ce que ça amène quelque chose à de l'information qui est pertinente présentement?
Puis, parfaitement d'accord.
Tu avais un narratif où tu avais deux campagnes qui allaient pas bien, que les affaires étaient faites fling-flang, puis peut-être que les chefs de parti et les organisations vérifiaient mal les personnes qui venaient travailler pour eux autres. On a eu la débâcle de M. Wu, on a eu des gens qui sont partis avant même que ça commence, on a eu des gens qui, pendant la campagne de Sam Ahmad, dès qu'ils essayaient de parler en point de presse, Sam Ahmad se dépêchait d'aller parler par-dessus pour être sûr qu'ils disent pas de niaiseries. En tout cas, si c'était pas ça, c'était la perception qu'on avait de l'extérieur. Moi, j'aurais fait partie dans cette réunion-là de journalistes, de gens qui disent, ça montre qu'il y a des vérifications qui n'ont pas été faites ou on a fait des vérifications puis on a décidé de prendre une chance pareille. Moi, je trouve qu'il y a un élément d'information important là-dedans. Puis je pense que le contraire peut se débattre aussi, mais je vois mal... Parce que, tu sais, acharnement médiatique, ça implique que t'as de la malveillance et une intention d'être malhonnête à un candidat, vers un candidat versus un autre.
Tout le monde peut l'être, incluant les journalistes malhonnêtes.
Moi, je pense qu'on débat de est-ce que c'est une information pertinente? Est-ce que c'est notre devoir de la donner? Mais je pense pas qu'on débatte sur on veut-tu faire une jambette à La Chance ou à Marchand ou à Hamad. Je pense pas que ça se fasse comme ça.
Moi, je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire tu parles d'acharnement médiatique quand un journaliste s'acharne sur quelqu'un que t'aimes.
Travaille. Fort.
Là, actuellement, Pablo Rodriguez, il est dans le trouble.
Personne l'aime.
Puis je veux te parler de Pablo Rodriguez. Oui. Mais hier, j'ai vu un article d'une journaliste que je respecte, là, Stéphanie Martin, oui. qui parle de Stéphane Lachance. Puis là, dans le chapeau en haut, c'est écrit dans le titre, Lachance a mis sa maison en vente à Lévis. Mm-hmm. Ben, j'écris, c'était une promesse électorale, donc je trouve ça bien qu'elle en parle. Le chef de l'opposition officielle à Québec s'y est engagé en campagne électorale. Ah, c'est cool, Steph, c'est cool. Puis là, je commence à lire ça, puis là, tout est parfait, jusqu'à temps qu'on trouve que Steph Lachance a confié le mandat de sa maison à Lévis, à une courtière immobilière. Et elle, son nom, c'est Doris Chabot. Mm-hmm. Et là, on est allé chercher dans le pédigree de Doris Chabot et on dit que c'est une personne qui est anti-tramway.
OK.
OK, c'est correct. Et là, on me dit que Stéphane Lachance habite dans un logement à Québec. Elle a le temps de faire sa transition pour s'acheter une nouvelle maison. Dans la maison, dans un des immeubles de l'agente immobilière, qui est aussi une candidate, c'est la même, mm-hmm. qui est aussi une personne qui trippe pas sur le tramway.
OK.
Puis je regardais ça hier, je me disais, j'ai rien appris. Ça,
non, mais
je me disais,
qui se ressemble, ça semble, j'imagine.
Ben oui, mais on est tous un peu comme ça. Là.
Ouais.
Nos amis ont à peu près les mêmes idées que nous, là. Pas dans tous les cas, mais nos amis. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus? Je le sais pas. Mais je veux t'amener sur Pablo Rodriguez. Il y a encore de la nouvelle qui sort sur Pablo Rodriguez ce matin. Pascal nous parlait de ça. Pablo Rodriguez, qui est un politicien de longue date, qui semble avoir aucun pif politique, là, qui se dit « Hey! » J'ai besoin d'un bureau pour ma campagne électorale à la chefferie du Parti libéral du Québec. Fait que je vais louer un bureau dans un local qui est dans une bâtisse qui appartient à ma femme. Mm. Et ça, ce sera pas mal perçu. Voyons donc, toi.
Encore une fois, c'est le principe de la goutte d'eau. La goutte d'eau seule n'a aucun effet et aucun impact. Dans les mêmes circonstances, Paul Saint-Pierre Plamondon fait la même affaire. C'est banal. Personne s'offusque de ça. Mais là, on est dans un verre qui se remplit. Tu sais, on a fait cette image-là dans le pit stop la semaine passée. Puis je disais que le verre était à moitié plein. Depuis ce temps-là, le verre déborde. Puis c'est des gouttes qui s'ajoutent. Ça montre une façon de faire qui, encore une fois, tu penses que tu fais les affaires comme faut, mais tu es dans une tradition de gens qui font toutes la même affaire. Puis quand tu accumules toutes ces affaires-là puis que tu fais un château de cartes ensemble, ben tu te rends compte que tout est fait tout croche.
Parfaitement d'accord, mais tu t'attendais-tu à ce qu'un gars qui fait de la politique depuis des années et des années ait aussi peu de jugement en se disant « Ça ne me reviendra jamais d'en face.
» Je le regarde aller. Moi, tant qu'on ne l'a pas entendu parler, Pablo Rodriguez, ça a bien été. Mais à partir du moment où tu l'as entendu parler, tu t'es demandé, mais voulez-vous bien me dire quel genre de zigoto ils nous ont parachuté du Parti libéral du Canada?
Je vais t'avouer que j'ai connu des filles de même d'un bord.
Ah ouais?
C'est pas tout le monde. Moi, je réponds ça de façon très simple.
Ouais.
Et je vais faire un parallèle avec la campagne municipale qu'on vient de vivre. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui est né pour être chef.
Ouais.
Sam Hamad était un excellent deuxième, troisième, comme chef, ça foireux. Pablo Rodriguez, c'est un excellent lieutenant pour Justin Trudeau comme chef, sa foire. C'est pas tout le monde qui a les qualités d'être le leader de l'équipe. Il l'a pas.
Puis il faut que tu aies le goût de suivre un leader. Puis je pense qu'au-delà des belles paroles puis des semblants de profession de foi, tu le regardes aller. Est-ce que tu as le goût de ramer pour un gars qui a aussi peu d'assurance, autant d'insécurité, puis qui a pas cette espèce d'aura-là de leadership? Je pense pas. Puis tant que ces gens-là sont pas sur le devant, on n'est pas sûr. Regardez la perception qu'on avait de Sam Hamad avant qu'il lance sa campagne versus la perception qu'on a eue après ses premières présentations de presse.
J'ai gonflé mes souvenirs.
Oui, on idéalise.
Ben, moi, je pense que ça parle beaucoup de la politique.
J'ai gonflé mes souvenirs de sa maman.
Est-ce que la politique, c'est plus facile qu'on pense, puis que parfois, t'es vraiment juste une image, puis qu'il y a plein de politiciens qu'on a encensés qui, finalement, étaient pilotés par une équipe? Moi, je pense que ça nous a un peu amené à l'avant des angles morts politiques qu'on n'avait pas. Est-ce que sa maman est définitivement un bonhomme politique? On n'aura pas la réponse, mais ça nous a amené à penser à... Voyons, y a-t-il une grosse équipe derrière chaque politicien, puis c'est ça qui aide?
Sa maman de manquer de flair politique, mais actuellement, moi, c'est le fait que Pablo Rodriguez était au fédéral, puis comme Denis dit, il y avait une grosse équipe, un truc de communication autour, puis là, il est un peu laissé à lui-même, mais tu sais, un avocat, quand il se passe de quoi dans ta vie, puis là, tu dis, j'ai besoin d'un avocat, qu'est-ce qu'il dit, admettons... Mettons que tu y parles des réseaux sociaux, l'avocat te dit quoi? Mettons que t'es en maudit après ton ex, puis là, tu veux te défouler, vous êtes en cours. L'avocat te dit quoi? Ferme ta gueule.
Oui, c'est la consigne de base.
Probablement que c'est le même conseil que l'avocat de Marois Risky a dit. Ferme ta gueule.
Elle fait bien.
Je vais te suivre partout où tu vas aller. Je vais te conseiller. Tu me fais confiance? Tu m'embauches? Tu me fais confiance? Je vais te suivre partout. Tu vas aller rencontrer Pablo? Tu y dis... Fuck all! Tu vas le rencontrer, t'écoutes ce qu'il y a à dire, puis tu me laisses aller. Tu vois les journalistes, je vais être avec toi à côté des journalistes. Quand les journalistes vont te poser des questions, fais des sourires.
Oui.
Elle a suivi tout ce que son avocat lui a dit à la lettre. L'équipe de communication du Parti libéral, là, c'est pas une équipe de broche à foin, là. C'est des gens qui sont vraiment bien rodés, là. C'est soit qu'ils l'ont complètement échappé, ou soit que l'autre en haut, ils écoutent pas pantoute.
Peut-être qu'ils écoutent pas, ce qui nous amène à... C'est pas tout le monde qui est bon juge de soi-même. Penses-tu que t'es un bon juge de toi-même?
C'est bon, ça.
Yann, quand tu te regardes dans le miroir, il y a trois façons, hein? Soit que tu te vois meilleur que t'es, soit que tu te vois exactement comme t'es, ou tu te vois pire que t'es et t'es plus sévère envers toi-même qu'envers quiconque.
Tu parles de mon image, là, OK?
Oui.
Bon, je pensais que j'avais un cul d'enfer.
OK, si tu veux aller là, on n'a pas encore fort. Ça.
Mes gestionnaires immobiliers rentrent une fois de temps en temps dans mon condo.
Ouais, ouais.
Je t'ai écœuré, fait que je me suis doté d'une petite caméra qui est directement projetée où la porte.
Oui. Oh.
C'est une caméra qui ne bouge pas, elle est fixe. Le problème, c'est que le matin, moi, mon linge, j'ai transféré d'une maison à un condo, fait que j'ai du stock. Fait que mon linge du day-to-day, il est dans une autre chambre. Fait que je dois passer devant cette dite caméra, puis je t'appoêle.
Ouais.
Recevoir une notification de son cul sur son cellulaire, puis de regarder ça avec une grande attention, c'est raide.
Mais au-delà du cul, là, c'est une question quand même d'introspection qu'on parle.
Si tu m'avais demandé, Marceau, il est comment ton cul? Il est parfait.
Il est parfait, hein?
Mais là, sur caméra, je peux te confirmer, ça ne l'est pas pantoute. Je me suis donné une note beaucoup trop élevée par rapport
face à cul avec ta réalité.
Je te soumets que Pablo Rodriguez juge ses qualités de leader comme tu jugeais ta paire de fesses avant de la voir à caméra.
Mais tu sais, je pense qu'on n'est jamais tout le temps un bon juge de nous-mêmes.
Ouais.
Il y a des moments, moi, je pense, où on va prêcher par excès de confiance.
Mm-hmm.
Puis il y a des moments où on va prêcher par défaitisme.
Oui.
T'sais, c'est l'être humain. Ils sont nos hauts et nos bas.
Puis les deux ont leur force puis leur faiblesse.
Exactement. Hein?
Le fait d'être entêté, le fait de vouloir aller à quelque part puis de t'écouter toi-même, c'est un signe de confiance.
Oui.
Mais ça peut facilement devenir de l'arrogance.
Martine Ouellet.
Très bon exemple. Puis de l'autre côté... Tout le monde a des insécurités, mais si tu es trop sévère envers toi-même, à un moment donné, tu vas arrêter d'avancer.
Ben, ça n'avancera pas, exactement.
Par contre, quand tu es sévère avec toi-même, tu vas peut-être avoir tendance à écouter un peu plus ce que les gens vont te conseiller de faire.
Tu as tellement raison.
Tu vas être ouvert à la critique, tu vas être ouvert aux suggestions. Ma supposition dans le cas de Pablo Rodriguez...
Mais juste avant ta supposition, tu te vois mon cul?
Moi, je le vois tous les jours.
Parce que je me serais donné une note de 10, mais là, maintenant, ça passe au-dessous de la note de passage.
On est les pires pour juger nos paires de fesses. On les voit jamais.
Ouais, exact.
Ouais. Mes fesses sont comment, Pascal?
Ça va être correct. Ben, je suis à ma
pas.
Job.
Moi, ma blonde me dit, j'ai des belles petites fesses, elles sont le fun.
Je regarde si le plafond.
Non, mais ça prend un juge impartial. Là. Marceau te montre ses fesses. Ouais. Ouais.
Mmh. Je sens que je suis biaisé.
Ouais.
Je peux pas.
Pourquoi tu veux pas un crayon des yeux?
On n'a pas baissé nos pantalons, là. On parle juste de physique globale. Là.
Bon. Mais t'as raison dans ce que tu dis. Puis moi, personnellement, quand dans ma vie, ça commence à s'embourber, je me pose toujours la question, OK, je suis dans quel feeling? Et souvent, je suis dans un feeling où, ben, non, est-ce correct, je vais le régler? Est-ce correct, j'ai raison? Est-ce correct, je suis capable? Est-ce correct? Puis là, à un moment donné, je fais, hey, attends une minute, va donc voir ton entourage, voir un peu.
Mm-hmm.
Oh, là, c'est le reality check. Ouais. Fait que là, t'es haut, tu redescends d'un trait, puis paf, soudainement, t'es capable de régler tes problèmes.
Présentement, je pense qu'il y a beaucoup de chefs politiques qui n'écoutent pas en tout. Je pense que François Legault n'écoute pas son entourage. Je pense que Pablo Rodriguez n'écoute pas son entourage non plus. Puis je pense qu'il y a des gens là-dedans qui se voient mal. On m'a raconté récemment, puis ça m'a surpris, que Sam Ahmad se voyait premier ministre du Québec.
Oh!
Ouais.
Fait que là, lui, la mairie de Québec, c'est une petite affaire.
Bien, la mairie de Québec, il voyait ça gagner d'avance. Puis c'est peut-être... Moi, j'aime beaucoup Sam Ahmad en tant qu'individu. J'ai adoré toutes les conversations qu'on a eues avant que la campagne commence. Mais à partir du moment où j'ai commencé à juger la campagne électorale, Sam Ahmad n'a plus voulu me parler.
On l'a eu d'un.
Ouais, c'est ouais. Ça. Puis moi, j'ai une job à faire, puis je peux pas faire le même genre de conversation puis le même genre d'entrevue à partir du moment où tu te présentes comme maire versus t'es un politicien à la retraite. J'ai beaucoup de plaisir à parler avec Agnès Maltais. Ça revient au PQ. On fera pas le même genre d'entrevue qu'on va faire quand on va parler du sommet des Amériques la semaine prochaine. Parce que là, tu te présentes pour redevenir un politicien actif qui aspire à avoir la confiance des citoyens. On joue plus la même game. On danse plus du ballet jazz. Là, on joue aux échecs un contre l'autre. La game vient de changer. Il y a des politiciens qui se perçoivent mal, qui auraient intérêt peut-être à sortir de leur bulle une fois de temps en temps, puis pour reprendre l'expression que François Legault a repris, aller marcher dans la neige, mais plus que deux pas, là, aller marcher dans la réalité un peu pour avoir le véritable pouls. Quelqu'un qui veut rendre service, mettons que je suis un ami de Pablo Rodriguez, puis je suis un conseiller de Pablo Rodriguez, c'est quoi le meilleur service que je peux y rendre actuellement? Hey, fini donc ça avant Noël.
Ah, là, présentement, ce serait ça. Mais ouais. Au début de la crise, ça aurait été une feuille 8 par 11. Tu écris un discours, on te le corrige, puis tu ne t'en tiens qu'à ça. Puis après ça, tu dis, nous autres, on va de l'avant. Puis au fur et à mesure que les enquêtes s'accumulent, tu dis, entièrement d'accord avec cette enquête-là, faut que la lumière se fasse. Puis tu passes à d'autres choses, puis tu proposes d'autres choses, puis tu joues ton rôle dans l'opposition. Mais tu ne fais pas des conférences de presse où tu as l'air d'un attardé.
Puis je vais même aller plus loin que ça. Je veux dire, mettons que le gars, il est très nerveux devant les journalistes, puis qu'il n'est pas encore à l'aise avec ce genre de game-là. Est-ce que tu peux arriver puis dire, j'ai-tu confiance en mon chef d'Éragi? Oui, fais-le parler. Présente-le aux journalistes, mets-le en avant. Si mon chef d'Éragie dit « Moi, je suis prêt à aller au bat pour toi », ben mets-le en avant. Il est capable de parler. Il a de la prestance. Mm-hmm. Hier, c'est lui qui a le mieux paru dans sa sortie face aux journalistes. Il sait quoi dire et il a un ton, un propos qui inspire la confiance.
Ouais. Pascal, on a un petit breaking news. Ouais. Là, le gouvernement Legault qui aurait conclu une entente dans les dernières minutes, une entente de principe avec les médecins de famille du Québec et va suspendre l'application de la loi 2 sur le mode de rémunération.
Oui, il faut se rappeler de ça. La loi 2 est suspendue. Donc, Québec s'est entendu avec les médecins de famille et ça vient de tomber, effectivement, entente de principe. Ça va suspendre l'application de la loi 2 sur le mode de rémunération. On en est là en ce moment. Donc, ça s'applique autant à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qu'à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. C'est donc le report de l'entrée en vigueur de la loi. Ça devait s'appliquer dès le 1er janvier, vous le savez. On revenait au travail avec tout ça, tout un chantier. Mais ça va permettre au gouvernement d'apporter des amendements. Donc, quand on va revenir en chambre en février prochain, on va revoir puis on va apporter les changements qui se doivent parce qu'on a beaucoup d'experts et de gens qui se sont prononcés sur le fait que ça allait trop vite puis qu'on avait beaucoup de choses qui étaient tombées entre deux chaises. Le premier ministre a dû s'impliquer personnellement, c'est ce qu'on dit, pour faire débloquer les négociations. Donc, François Legault est allé avec un peu avec ce dont on parle, avec sa propre expertise. Il pensait que c'était le meilleur pour aller gérer tout ça. On s'était enlisé depuis l'adoption sous Bayon de l'importante réforme du mode de rémunération des médecins, vous le savez. Donc, François Legault a rencontré le nouveau président de la FMOQ, c'est le docteur Marc-André Amiotte. Ça s'est fait vendredi dernier. Les deux parties ont entamé un blitz de négociations et ça a mené à l'entente d'aujourd'hui. Voilà. Peut annoncer.
J'ai un petit complément d'information. À l'heure actuelle, le CA, justement, de la FMOQ est en rencontre toute la journée. Il y aura webinaire pour les médecins demain matin. Et là, par la suite, on va pouvoir faire nos commentaires.
Mêlée de presse à 8h15 ce matin. demain, ouais, la gang, donc les ministres France-Hélène Duranceau et Christian Dubé qui vont la tenir pour expliquer les grandes lignes de l'entente.
Exactement. Donc, entente de principe entre Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Ce qui reste à déterminer, c'est est-ce que ce sera la même chose pour les médecins spécialistes. On va vous en dire plus dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Merci d'être là.
Denis... Mais ça s'applique autant aux omnipraticiens qu'aux spécialistes, okay, je l'ai dit.
Moi, l'information que j'ai là, là, oui, il s'en limite à la FMOQ, mais
moi,
je te fais confiance.
Je te garantis, parfait, que c'est aussi à la Fédération spécialiste.
Parfait. L'Australie qui interdit les réseaux sociaux aux ados, Denis, 16 ans. Donc, si tu as en bas de 16 ans, là, tu ne peux pas aller sur les réseaux sociaux. Ça inclut plusieurs plateformes. Ça inclut YouTube, ça inclut Instagram, Twitch, Snapchat, Threads, X, Kick, Reddit. C'est extrêmement sévère et le Québec va embarquer là-dedans à partir de 14 ans. C'est Pascal Paradis du Parti québécois qui nous a annoncé ça hier. Si jamais le gouvernement du Parti... Si jamais le Parti québécois devient un gouvernement, ben on l'interdira, toutes ces plateformes-là, au moins de 14 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Les amendes sont extrêmement sévères pour les entreprises. On parle de 45 millions là, comme amende. C'est très sévère. Tu penses de ça, toi?
Bien, premièrement, est-ce que c'est des lois qu'on va vraiment appliquer ou on va faire comme les lois sur l'alcool et les cigarettes dans les dépanneurs du Québec? C'est-à-dire que la loi existe puis tout le monde s'en contre Saint-Ciboirise. Moi, je veux savoir si on l'applique ou si on ne l'applique pas. Il y a beaucoup de lois qui existent au Québec qu'on n'applique tout simplement pas. L'Australie est allée avec 16 ans de voir que les grands du web collaborent. Moi, c'est la première chose qui me surprend parce que là, on est en train de regarder avec des méthodes, entre autres l'intelligence artificielle, où tu soumets un selfie puis en dedans de 40 ou 45 secondes, sont capables avec certitude de déterminer ton âge à partir de ta photo. Est-ce qu'on peut utiliser le passeport qu'on pourrait scanner? Il y a comme plein de méthodes présentement qui sont à l'essai que je trouve intéressantes. Il y a une affaire qui me boguait avec l'Australie, 16 ans, je trouvais ça vieux. 14 ans, ça m'apparaît fair. Je trouve que c'est un âge où on peut tracer une ligne, pas idéale, parce que c'est jamais l'idéal quand on trace une ligne, mais 14, pour moi, ça a plus de sens que 16. T'en penses quoi, toi?
Moi, si ça peut m'enlever les YouTubers marocains dans la maison qui, voilà, roulent 24 heures sur 24, oui, je vote pour ça. Si ça peut m'enlever le YouTuber, je sais pas si c'est un Québécois, mais il y a un petit accent asiatique. Arrête pas de crier tout le temps comme ça, là. Moi, je vote pour ça, mais cela dit... pour YouTube, mm-hmm, moi, mes gars, toute leur enfance ont écouté des trucs de Mickey Mouse sur YouTube.
Ouais.
Il y avait beaucoup de choses de qualité qu'on pouvait retrouver sur YouTube.
Les miens écoutaient Blippi. C'était bien Blippi. C'était,
oui,
sur YouTube.
La découverte de jouets aussi, des trucs qui étaient vraiment bien faits, qui étaient tous diffusés sur YouTube. Je trouve ça sévère pour YouTube, honnêtement. Mais pour le reste, je suis parfaitement à l'aise avec ça jusqu'à 14 ans.
C'est que ça force une supervision. Oui. Tu sais, moi, d'arriver en avant de la chaîne pour que les enfants écoutent Blippi, donner mon autorisation. C'est parce que on perd le contrôle vite avec les vidéos qui sont des shorts, là, l'équivalent YouTube de TikTok. C'est que tu pars faire la vaisselle 5 minutes, tu reviens, ils ont eu le temps de voir un paquet d'affaires que toi, tu n'as pas vu aller. T'sais. L'algorithme peut t'amener à un paquet de places. Si c'était mieux géré ces grands services de distribution-là, je te dirais, on n'a pas besoin de mettre une barrière avec l'âge. Mais dans les circonstances actuelles, où tu peux tomber sur de l'excellent contenu, mais mélangé avec de la merde que tu ne veux pas montrer à tes enfants, ben je pense qu'on n'a pas le choix... En attendant d'avoir l'identité numérique, ça j'y crois beaucoup et j'en rêve, fini l'anonymat sur Internet. Si tu veux traiter quelqu'un de mange-marde, ton nom va être à
côté. Ça va être avec ta face.
Quel que soit le surnom tweet que tu vas te donner sur les réseaux sociaux, tu sais. Mais en attendant, je pense que c'est un compromis acceptable. Puis l'âge de 14 ans, en même temps, je peux pas me fier à grand-chose d'autre que les deux petits gars que j'ai à maison. J'en ai un qui commence à développer une maturité par rapport à Internet. L'autre est pas prêt, mais pas pantoute. Puis je me dis, dans la maison d'à côté, il y a peut-être un gars... Moi, c'est 12 et 10. Il y a peut-être dans la maison d'à côté un gars de 11 puis un gars de 8. puis peut-être que les deux sont prêts, puis peut-être que les deux, tu sais, c'est dur d'établir des barèmes. Qui est prêt à faire telle chose à 16 ans, à 18 ans? Il y a bien des choses pour lesquelles j'avais un permis à 18 ans, puis j'avais pas maturité, là.
Je pense que, tu sais, il y a un auditeur qui me soumet cette idée-là, puis je trouve que c'est une bonne idée. YouTube Kid, je pense que je le garderai encore, là, pour nos jeunes. YouTube
oui,
Kid,
oui.
Il y a plein de trucs éducatifs là-dessus. Comme nous autres, on regardait Passe-partout à la télé.
Ben là. Oui.
Aujourd'hui, on est en 2025, fait qu'il faut s'adapter avec Internet. Il y a plein de gens qui n'ont plus le câble, là, qui leur reste juste Internet, puis qui sont sur YouTube pour toutes les affaires.
Ça va être le retour du câble. La victoire du câble contre les médias sociaux. Mais moi, honnêtement, je suis en porte-à-faux avec vous. Moi, okay. Je suis contre cette interdiction-là. Moi, je suis un grand pédagogue dans la vie, puis j'aime mieux gérer mes choses dans ma fougère avec mes enfants, ouais. Les t'as accompagner là-dedans.
T'as pas l'impression que c'est un cas de santé publique? Il y a beaucoup de dépression chez les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui s'isolent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de merde qui se font entre gangs sur les réseaux sociaux.
Moi, je te fais confiance en tant que parent. Ouais. Marceau, je te fais confiance en tant que parent. Je me fais confiance en tant que parent. Mais tu sais, quand il y a des chiffres...
Et Pascal?
Ouais.
Pascal, ça viendra.
Puis tu vas-tu me faire confiance?
Écoute, chacun gère ses affaires. Ben oui, tu sais. Non, mais je veux vous amener vers un chiffre, moi, qui m'a jeté à terre,
vas-y
qui
donc.
Est sorti la semaine passée. Des enfants en bas de 2 ans qui passent 3 heures par jour en avant d'un écran.
En effet, c'est une problématique.
Moi, c'est là que je vois, OK, il y a des parents qui font un travail exceptionnel, puis je pense qu'on peut s'applaudir toute la gang, là, mais il y en a beaucoup qui dompent littéralement leurs enfants en avant d'un écran.
C'est un cas de santé publique. Puis moi, j'ai été dompé devant ma télé longtemps. Ma mère était monoparentale, elle devait travailler. Fait que j'arrivais le soir de l'école, puis ma mère arrivait, je pense, à 18h ou 19h le soir. Mm-hmm. Fait que pendant 3 heures, qu'est-ce que je faisais au lieu de faire mes devoirs? Ben j'étais à la télé, puis j'écoutais Claire Lamarche.
Parents perdus.
Non, Top Modèle.
Oh boy!
J'écoutais ça, là.
Non, mais tu sais, puis c'est sûrement moi avec mes valeurs, mais j'ai beaucoup de difficultés avec l'interdiction.
Mm-hmm.
Je suis plus dans l'accompagnement, dans l'enseignement, dans l'apprentissage. Mais je comprends qu'on n'est pas tous au même niveau en tant que parents.
Je pense qu'il y a un couteau à double tranchant là-dedans, parce que si ça devient une loi, un règlement, quoi que ce soit, il y en a qui vont vraiment oublier leur rôle parental là-dedans. Ouais. Sinon, ça va se faire comme on voit peut-être la sexualité à l'école. Puis l'autre point, c'est que je me dis, tu sais, mettons, dans ma famille, nous autres, on n'en avait pas de céréales sucrées, on n'en avait pas de fruits au long, on n'en avait pas. Ça, c'était Noël, puis c'était au camp de jour. Quand je suis arrivée en appartement, je vais vous dire une affaire, les premières choses que j'ai achetées, c'est des Lucky Charms, puis il y en avait à chaque semaine. T'sais, quand tu n'as pas ce droit-là, puis tu n'as pas eu l'éducation derrière sur ce que ça fait sur ton corps ou quoi que ce soit, en parlant des réseaux sociaux, avec ton cerveau, peut-être qu'après, tu te ramasses dans une fosse au lion, puis tu n'as pas eu cet enseignement-là parce que jusqu'à 14, 16 ans, tu n'avais pas le droit de l'utiliser, puis après, tu es comme pitché là-dedans sans avoir eu toute l'éducation que tu aurais eue si c'était permis.
Tu sais, c'est intéressant parce que tu vois des jeunes qui arrivent à leur semaine de relâche, des jeunes ontariens qui n'ont pas appris à boire, entre guillemets, parce que l'âge légal est plus tard. Ils arrivent ici, puis ils se ramassent d'un coma éthylique, d'un banc de neige, puis ils se défoncent parce que justement, ils n'ont pas fait leurs premières expériences.
Ils scrapent nos hôtels.
Oui, puis moi, le ceux qui en avait, mais des jeux vidéo, après le Coleco, moi, j'ai rien eu. J'ai pas eu de Nintendo, j'ai pas eu de N64. Je peux-tu te dire que mes premières payes, que j'ai réussi à ramasser quelque chose quand j'ai commencé à travailler à Radio de Québec, la première affaire que je me suis acheté, c'est un PlayStation.
Ouais.
Puis j'ai joué non-stop pendant 2 semaines. J'étais probablement rendu blanc-gris, là. Je veux dire, j'allais travailler en pyjama. Je veux dire, je restais à côté, j'étais sur le même coin de rue. Il a fallu que j'apprenne à me doser. C'est pas pire, j'étais rendu un adulte.
Il se l'avait pu.
Mais j'ai eu un moment perte de contrôle, le câble se rendait pas chez nous. Quand j'ai commencé mon cégep, puis pour la première fois de ma vie, j'ai eu une petite TV couleur dans ma chambre avec le câble. Oh my God, j'en ai-tu écouté des Fresh Prince of Bel-Air avant de me rendre compte que c'était pas si bon que ça? Je l'ai vu, le Carlton, là, faire sa danse, puis tout ça. Là, je veux dire, hey, j'ai écouté la TV, je pouvais plus arrêter, tu sais. Fait que je te rejoins dans cette réflexion-là. Puis c'est là que je vois, tu sais, au-delà de l'interdiction, comment peut fonctionner une autorisation parentale? Est-ce qu'on y va aux 45 minutes? Est-ce qu'on barre YouTube après, mettons, 1 heure? Parce que, tu sais, le phénomène du dumping, c'est ça, là. C'est que tu mets un enfant en avant d'une TV, puis ah, tabarnouche, il est plus tranquille. Quand ça fait 3h30, c'est malsain. Est-ce qu'après 1 heure, la TV se ferme? Je sais pas. Il y a moyen de réfléchir à ça.
Deux commentaires texto que j'aime beaucoup, Claudia, qui dit « Les enfants voient leurs parents coller sur les réseaux, faudrait gérer les parents. » En effet.
Très d'accord.
Et Pierre-Luc qui écrit « Sur ce sujet, vous pensez tous différemment et vous avez tous raison. » C'est vrai qu'il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas personne qui peut dire « Hey, moi, là, c'est la vérité, ce qu'il n'y a juste pas blanc ou noir. Ouais. » C'est très zone grise.
Pensez tous différents et être capable de jaser. Ça fait longtemps, nous autres, qu'on a quitté le dôme.
Puis, tu sais, il n'y a pas juste une bonne recette pour faire un bon gâteau. C'est de trouver la recette qui fonctionne. Moi, j'ai deux enfants. Ils ne fonctionnent pas pareil. Je peux pas avoir les mêmes règles pour les deux. C'est impossible.
Ah, mais t'as raison.
Ils ont pas le même caractère.
C'est la même chose pour moi.
Hey, les ceux-là qui en ont 13, je sais pas comment vous faisiez.
Puis je vois les auditeurs qui sont contre l'interdiction de mettre des nouvelles lois, empêcher ça. Mais tu sais, moi, là, je suis capable de rouler à 140-150 km/h sur l'autoroute entre Québec et Montréal sans aucun problème. J'étais assez attentif, j'ai deux mains sur le volant, puis j'ai pas de problème. Sauf qu'il y en a qui sont un peu moins habiles sur la route.
Puis il y aura toujours, tu sais, c'est interdit la vente de boissons en bas de 18 ans. Si tu veux que ton flow il prenne de la bière à 14, tu vas avoir le dernier mot, on s'entend?
Oui.
Tu vas y aller au dépanneur chercher de la bière ou tu vas y permettre ou. Tu sais, on reste quand même en contrôle de ce qui se passe à la maison pour le meilleur et pour le pire.
Mais mon point, c'est la raison pour laquelle moi, je pourrais rouler à 150 km/h sur l'autoroute puis je pense pas faire des accidents.
Pas aujourd'hui.
Puis on a décidé de mettre ça à 100, c'est qu'on a fait des règles pour peut-être les maillons faibles de la société qui ont de la difficulté à conduire. Les gens peut-être qui commencent à conduire un véhicule, qui sont pas habitués, qu'eux autres, 60 km/h sur l'autoroute, c'est vite en sacrement.
Les conditions météo,
des
gens difficiles.
Qui sont sur le point de perdre leur permis ou qui seraient, tu sais, qui ont à peine... qui savent à peine conduire encore à 97 ans, bien, s'ils me voient passer à 150 km/h, faut mettre des fois des limites. Puis la limite de 14 ans, au Québec, je trouverais ça correct, sauf peut-être YouTube Kid que je laisserais là.
Je voterais pas PQ pour ça,
mais
je pense que c'est une bonne mesure.
Ils font quoi, les jeunes, pour se contacter? Là? À partir du moment où le PQ arrive au pouvoir puis ils mettent ces lois-là en vigueur pour les moins de 14 ans, pas de réseaux sociaux, ils font quoi pour
retour à la ligne fixe dans les Vidéotron, puis ils vont être contents. Ils nous essaient tout le temps de la donner gratuitement en pensant que c'est un cadeau.
Parce que moi, c'était capoté. Là. J'étais au lac en Beauce, là, puis là, c'était la mer... d'un ami de mon gars qui m'écrivait pour savoir si son gars pouvait jouer avec mon gars. Là, je disais, ben il y a juste à descendre la côte puis quand il y a la porte.
Mais il y a quand même quelque chose à voir.
Je te parle du voisin. Le voisin. Je peux-tu faire des... Je peux-tu texter le voisin pour savoir s'il est chez eux? Non. Tu peux prendre tes bottes, faire 10 pas pour aller cogner à sa porte.
Mais je suis sûr qu'il y a des parents que ça dérange, ça. Fait qu'ils préfèrent sûrement qu'ils se contactent sur leurs appareils.
Mais tu vois...
Mais l'important, c'est d'en parler. Ouais. Moi, je pense que ça ramène au moins la discussion sur la table. Parce que quand on n'en parle pas, ça prend de l'ampleur, puis on en échappe des affaires, puis on est des parents qui sont pas au courant des nouvelles applications. Moi, ça s'arrête à TikTok. Vous, je sais pas, mais je sais qu'il y a bien d'autres choses en dessous.
Moi, TikTok est pas rentré chez nous. Snapchat est pas rentré chez nous non plus. Tout le monde est sur Snapchat, papa. Finalement, il est capable de parler avec ses amis. Ils se sont trouvés d'autres choses, on trouve des alternatives. Puis moi, je suis un parent un peu nono par rapport à tout ça. Je suis pas au courant, mais j'ai une blonde qui est vraiment ferrée en informatique puis qui me dit ça, tu peux voir ça, tu peux voir ça, tu peux voir ça, il peut arriver ça, il peut arriver ça, il peut arriver ça. Moi, c'est mon guide, c'est mon phare pour tout ce qui est technologique. Elle m'a expliqué pourquoi Snapchat était pas à l'aise avec des enfants de 12 puis 10 ans, puis je suis d'accord avec elle à 200%. Elle m'a expliqué la même chose pour TikTok. Je regarde comment mes enfants se comportent avec les vidéos plus courtes sur YouTube. Je suis d'accord avec elle. Mais c'est pas tout le monde qui a les connaissances nécessaires.
Ça, c'est un danger.
Être un papa tout seul, comme je l'étais il y a quelques années, probablement que j'aurais dit oui à l'usure à un moment donné. Puis j'aurais pris une décision différente.
Qu'est-ce qui s'est passé à pareille date en 2015, Denis? Le 11 décembre 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est drôle, hein? Tu sais, des fois, il y a des événements marquants dans nos vies qu'on sait exactement où est-ce qu'on était. Le premier tremblement de terre que j'ai vécu, moi, c'était en 1988, même année que les Jeux de Séoul.
Oui.
Ben Johnson,
il
était dopé. Ben, j'étais aux Galeries de la Capitale, mais à un moment donné, tout a commencé à shaker. Je me souviens de mon premier tremblement de terre. Je me souviens juste pas c'était à quoi sur l'échelle de Richter, mais je pense que c'était autour de 6. En 2015, le 11 décembre, j'étais en train de travailler. J'étais dans mon ancienne vie radio et on nous apprenait qu'il y avait 3 chasseurs qui se promenaient dans le secteur de Trois-Rivières et qui avaient retrouvé des ossements humains.
Cédrica.
On avait retrouvé effectivement les ossements de la petite Cédrica Provencher qui était décédée, on présume qu'elle était décédée, en juillet 2007. Quand même assez incroyable. Est-ce que c'est le crime parfait, ça?
Non. Il y a des gens qui savent des choses. J'ai encore confiance que tu vas avoir un documentaire ou une série coup de poing. C'est ce qui est la mode présentement. Là. Netflix a fait avancer des causes récemment à travers le monde avec des documentaires. Moi, je pense que cette histoire-là doit être racontée. On doit montrer où la police et l'enquête ont failli. On n'a pas... Premièrement, le crime parfait n'existe pas, qu'on nous dit, mais celui-là particulièrement était loin d'être un crime parfait. Il y a des éléments de preuve et des détails importants qui existent. Il y a des gens qui en savent plus que ce qu'ils ont dit. Puis moi, je dis qu'on serait peut-être dû 10 ans après la découverte du corps pour rebrasser le nid de guêpe un peu, voir s'il y a des langues qui sont prêtes à se délier. Tu sais, 20 ans après une tragédie, 10 ans après une tragédie, il y a des gens qui sont moins motifs, qui ont peut-être une perspective de plus, peut-être des gens qui pensent que la famille mériterait d'avoir la vérité, même si ça nuit à un membre de ta famille, par exemple, ou ça nuit à un collègue de travail ou à quelqu'un que tu connais. Je pense que c'est le temps peut-être de recommencer à mettre de la pression puis à faire travailler le devoir de mémoire dans un documentaire qui nous raconte toute l'histoire avec les gens qui ont vécu, qui ont découvert, qui ont cherché la famille, tous les calvaires auxquels ils ont été exposés. Alors, parler à Claude Poirier, qui, à un moment donné, a été au cœur de cette enquête-là. Moi, je pense qu'il y a du travail médiatique, pour boucler la boucle, un bon acharnement médiatique à faire sur ce dossier-là, puis peut-être mettre ça entre les mains de Crave, de Netflix, d'un grand diffuseur sur le streaming, puis espérer que des gens qui savent, parce qu'il y en a, vont commencer à parler un petit peu plus.
On va espérer que tu as raison, ouais. Denis. Je te souhaite de passer une super de belle journée. C'est la journée des sondages.
Ben
aujourd'hui,
oui.
On va
ben
avoir
oui.
notre bulletin avec la nouvelle grille qui est rentrée en place en août dernier. Pour notre part, ça va être quoi? Un genre de 8 semaines qui seront comptabilisées. Donc un très petit chiffre comptabilisé. Puis, les autres chiffres appartiennent à l'ancienne équipe qui était en place, bien entendu. Fait qu'on espère que ça monte un petit peu. Et même chose pour ce qui est des autres shows de la grille. Toi, ça fait un bail que t'es là.
On s'en souhaite une belle. Ça fait 4 ans et demi.
Puis Montréal, ça a quand même bien été pour la famille Leclerc, oui. 99.5, qui fait trembler Cogeco encore.
Oui. Oh oui, les colonnes du Temple sont shakées. Puis je suis désolé pour toi, Yann, parce que je sais que t'espères qu'ils reviennent en politique. Mais Mario Dumont, c'est le prochain Paul Arcan, that's it.
Ah, je te dis.
Je sais.
J'aime beaucoup présentement les idées adéquistes de la coalition Avenir Québec.
Oui, mais là, Pablo s'en va, François, un regain de vie.
Ah ben oui, c'est ça. On va être pogné avec François. Merci, Denis.
Et Bernard.
Allez, bonne journée de soirée, mon ami.
Marceau le matin. Marceau.